Alors, par ce beau temps de mars qui nous évoque la fin de l'hiver et le retour de la végétation du printemps, l'idée m'est venue de parler de quelque chose qui s'est passé à Montcuq il y a maintenant 780 ans, presque 800. Pierre Célian, devenu dominicain et inquisiteur, est venu en Quercy pour infliger aux hérétiques du pays les pénitences justifiées selon le droit de l'Église et méritées par leurs opinions religieuses, qui en grec se disent des hérésies, le choix d'une opinion personnelle. Pour en revenir donc à ces idées des cathares de Montcuq, qui ne sont pas nés comme des champignons après la pluie, qui ont un long passé, puisque le catharisme apparaît peut-être vers 1020-1030, plus sûrement vers 1165-1167, par différents documents, notamment l'un qui émane d'évêques et d'abbés de monastères réunis à Lombès, dans l'Albigeois, avec des chefs cathares, et qui avaient conclu cette confrontation, on appelait ça une disputation au Moyen-Âge. Les évêques avaient conclu à l'adresse de ce qu'on appelle de nos jours les cathares, « Vous lisez les mêmes écritures saintes que nous, mais vous les lisez à l'envers et de travers. » C'est ce qui caractérise le catharisme, on le sait maintenant par toutes les découvertes qui ont été faites. Les cathares s'appuyaient sur les textes du Nouveau Testament, encore plus que de l'Ancien. Ils n'aimaient pas trop l'Ancien Testament, vous comprenez pourquoi tout à l'heure. Ils préféraient le Nouveau, et ils préféraient plutôt Saint Paul et Saint Jean, l'évangéliste, à d'autres auteurs. Ils acceptaient les psaumes, ils refusaient la Genèse et l'Exode. Et lorsque le comte de Toulouse Raymond V appelle à l'aide le roi de France et le pape vers 1175 pour demander au roi de France et au pape d'organiser une croisade contre les hérétiques de ses domaines, Raymond V, dit le catholique, père de Raymond VI, grand-père de Raymond VII, les deux comtes qui ont affronté la croisade albigeoise, Raymond V dit ceci, que ces domaines sont infectés par une hérésie qui, aux douleurs, reconnaît deux principes aux origines du monde, du temps, de l'univers et de l'être humain. Deux principes se partagent le monde. Dualisme qui caractérise le manichéisme, d'autres mouvements de pensée qui vont se développer au Proche-Orient et dans les Balkans jusqu'en plein Moyen-Âge, y compris dans l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin chrétien. Mouvements qui vont donner naissance à ce qu'on appelle le bogomilisme, qui apparaît vers les années 980, il est contemporain de l'hérésie d'Orléans. Bogomilisme qui va être en rapport, les bogomiles plutôt, vont être en rapport avec nos cathares occitans, nos cathares d'Occident et nos cathares occitans, et si bien qu'en 1167, un concile entre guillemets, d'évêques entre guillemets, puisque bon, cathares de nos régions, se serait réuni à Saint-Félix de Lauragais pour discuter de différentes questions. Alors bon, ce concile cathare de Saint-Félix de Lauragais paraît être douteux parce que tout simplement, on en a connaissance que par un acte du XIIIe siècle, on appelle ça un vidimus, c'est-à-dire un certificat de copie conforme, par lequel, tenez-vous bien, un évêque cathare du Carcassès, Izarn, mort en 1226, certifiait avoir eu sous les yeux les actes du concile cathare de Saint-Félix de Lauragais de 1167. Or, Izarn est mort en 1226 et l'acte, le vidimus, le certificat de copie conforme, est daté de 1232. Donc, on sait bien les cathares croyant à la réincarnation, mais au point de revenir s'incarner pour signer un acte 6 ans après leur mort, c'est quand même difficile. Bon, enfin bref, ce concile cathare de 1167 est un autre acte fondateur du catharisme dans nos régions. Et alors surtout ensuite, on a les lettres du pape Innocent III, qui, avant même la croisade, dans les années 1207, appelle à l'aide le roi de France, lui demandant de conquérir les états du comte de Toulouse, de dépouiller le comte de Toulouse, de remplacer la noblesse occitane par une noblesse venue du bassin parisien, pour expurger de nos pays d'oc la fameuse hérésie née dans le monde vers 1020-1030 en Périgord. Et les terres qui sont visées par cette entreprise de conquête de croisade, croisade qui débutera en 1209, sont celles à la fois d'Étrincavel, vicomte d'Albi, Béziers, Carcassonne, anciens vassaux des comtes de Toulouse, devenus vassaux du comte de Barcelone, roi d'Aragon, et sont aussi les terres du comte de Toulouse. Il semblerait que Raymond VI se soit servi de la croisade pour essayer d'éliminer son rival Trincavel. Mais ensuite, ça s'est retourné contre lui. Alors, la croisade est lancée en 1209 par Innocent III, avec l'appui de la noblesse du bassin parisien, même de Gascogne, de Bourgogne, du nord du Massif central, du Bourbonnais, du Nivernais. Parmi les chefs de la croisade, il y a des cousins des Trincavel, il y a des cousins des comtes de Toulouse. Et cette croisade, lancée pour la plus grande gloire de Dieu, se terminera pour le plus grand profit du roi de France. Ça va mettre le pied à l'étrier aux Capétiens. Ce 13e siècle, qui est l'apogée de ce qu'on appelle le régime de théocratie pontificale, c'est-à-dire de gouvernance de la chrétienté par le pape romain, au nom de Dieu. Ce 13e siècle de théocratie pontificale va s'achever vers 1300 avec l'émergence des nationalismes, des royaumes, des royautés. Et lorsque, vers 1300, alors que les Capétiens ont utilisé cette croisade pour, en quelque sorte, asseoir leur pouvoir en Occident et le fortifier et entrer en expansion, à la fois territoriale, géographique, mais aussi institutionnelle, politique et économique, l'union du Languedoc à la France va faire entrer dans le même ensemble territorial les pays méditerranéens et ceux des bords de la Manche, de l'Atlantique Nord. Ça va restituer à l'ancienisme gaulois toute sa valeur économique, c'est-à-dire que le royaume de France va devenir le grand passage entre la Méditerranée et l'Atlantique Nord, et la Manche, et la mer du Nord. C'est un des acquis indirects de la croisade, mais ça va, en renforçant le pouvoir du roi de France dans son royaume, alors que jusque-là il était qu'un simple petit prince local, ça va aussi lui donner davantage de pouvoir face au pape. Et lorsque, vers 1300, le pape de l'époque, Boniface VIII, va tenter de renouveler contre Philippe IV le Bel, petit-fils de Saint-Louis, et contre le roi d'Angleterre, l'opération entreprise contre le comte de Toulouse et contre les Trincavel de Carcassonne, ça va se retourner contre lui. Parce qu'à ce moment-là, le roi de France, le roi d'Angleterre, sont devenus tellement puissants qu'ils vont faire appel à l'appui de leur noblesse, même de leur clergé, de les bourgeoisies des villes commerçantes, y compris celles des pays d'Oc, contre la tentative du pape de dépouiller le roi de France de ses territoires, d'exposer le royaume de France en proie, et de confier celui-ci à quelque conquérant que ce soit, qui serait évidemment avec la bénédiction du pape. Et donc, la croisade est lancée en 1209, elle s'achève en 1229. Raymond VII de Toulouse conserve comme biens patrimoniaux le comté de Toulouse, proprement dit, c'est-à-dire la région de Toulouse, le diocèse de Toulouse, le Quercy, le Rouergue, la Genée, qui lui vient de sa mère, qui était une fille d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri de Plantagenet, une sœur de Richard Cœur de Lion. Mais il est dit qu'à la mort de Raymond VII, qui interviendra en 1249, ses biens passeront à sa fille, Jeanne de Toulouse, laquelle a dû épouser, en application du traité de 1230, un frère de Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et à la mort d'Alphonse de Poitiers d'abord, et puis ensuite de Jeanne de Toulouse, à quelques jours d'intervalle, les terres des comtes de Toulouse passeront à leur héritier prévu par le traité, le neveu d'Alphonse, Philippe III le Hardi, fils de Saint-Louis. Bon, alors voilà un peu la trame historique dans laquelle va se développer notre problème d'aujourd'hui. Je fais de nouveau un retour en arrière. Alors, pour en revenir un peu à nos problèmes, on est en Quercy de Montcuq, en face d'un catharisme qui est surtout le fait de la noblesse guerrière à cheval, et parfois dotée de pouvoirs de justice. Il semblerait que les Saint-Géniès aient eu des pouvoirs de haute justice à Saint-Géniès même. Les peines de la butte de Saint-Géniès sont d'autres droits et pouvoirs. Et ils sont, depuis les années 1020, en possession du droit de percevoir les dîmes sur Saint-Oreille, en pays de Castelnau, Saint-Martin-d'Erne, en pays de l'Olmy, et Saint-Pierre de Nazac, en pays de Lozère-de-Moissac. Or, Saint-Pierre de Nazac dépend des abbés de Moissac. Saint-Martin-d'Erne, des sires de l'Olmy. Saint-Oreille, des sires de Castelnau. Et les peines perçoivent ces dîmes pour le compte de l'évêque de Cahors, mais les gardent pour eux. Avec ces dîmes, ils doivent entretenir les bâtiments d'église, les pauvres de la paroisse, le clergé, et ils en gardent une partie pour eux. Comme ils perçoivent en gros 10% des récoltes sur 3 paroisses, c'est comme s'ils percevaient 30% des récoltes sur une seule paroisse. Ils sont donc des puissants, des riches, et ils vont devenir des nobles. On les retrouve dans la noblesse de Montcuq, en 1245, donc au XIIIe siècle. Les autres nobles cathares qui vont intervenir, qui vont marquer par leur déposition ou par la déposition de l'un d'eux le registre de Pierre Célian, sont les Narcès. et Guillien Bernard de Narsès, qui est un des chevaliers militants de la foi cathare, sera connu comme un guide à cheval des parfaits cathares dans leurs déplacements à travers le pays. Il est connu par la déposition d'une certaine Carla Armande, Charlotte Armande, de Balenx, de fille des seigneurs de Castelmoron et de Badefol, dans la vallée du Lot. Castelmoron est la patrie d'un grand parfait cathare vigoureux de la Bacone, Et Guillaume Bernard de Narsès, son frère qui s'appelle Galliard de Narsès et Charlotte Armande de Balenx, guideront à cheval et armés, alors qu'ils ont à peine 10 ou 12 ans, les parfaits cathares dans leur pérégrination à travers le Quercy et la Genêt. Alors, cette famille des Pennes et des Narsès est connue parce que Pierre de Pennes, ils étaient plusieurs chez les Pennes. Il n'y a eu que Pierre de Pennes qui est connu pour avoir été hérétique. Les autres sont mentionnés dans un acte de 1245, mais comme membre de la noblesse à cheval du pays de Montcuq. Chez les Narsès, c'est pareil. Ils sont mentionnés aussi en 1245, donc ils n'ont pas été l'objet, victime des pénitences infligées par Pierre Célian. On s'aperçoit donc que dans une même famille, vous pouvez avoir des membres de la famille, hommes ou femmes, qui sont cathares et d'autres qui ne le sont pas. Ils sont même restés catholiques orthodoxes. Et c'est intéressant à voir parce que bon, ça va se retrouver dans le futur de ces familles-là. Un des neveux ou petits-neveux ou petits-fils ou fils, on ne sait pas, des Narsès de 1241 va se retrouver, il naît vers 1260, on pense. D'abord, il fera ses études à l'université de Toulouse, ses études de lettres puis de théologie. Et il se retrouvera ensuite archevêque d'Aix-en-Provence. Il a failli être élu pape à la place de Jean XXII, né Jacques d'Huez, le pape cadurcien. Chez les Pennes, c'est pareil. Un des neveux, petits-neveux de Pierre de Pennes, qui devait avoir une sœur, qui avait épousé un Saint-Géniès. Elle est venue accoucher dans le château de famille, chez le château de ses parents, à Pennes. C'est là que naîtra Bertrand de Saint-Géniès, dont la mère était une Penne, le père un Saint-Géniès. Les deux châteaux sont à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. Et ce Bertrand de Saint-Géniès fera ses études lui aussi à Toulouse avec Armand de Narsès, avec Guillaume de Montlozun, les Montlozun aussi cités dans le registre de l'Inquisition. Et Bertrand de Saint-Géniès finira sa vie cardinal, patriarche d'Aquilée, duc d'Istrie, marquis de Frioul, et il mourra martyr de l'Église. Il a été tué par un noble, le comte de Gorizia, qui était bon, noble au service des... On est là en plein dans les dissensions autour de la couronne impériale et autour de l'Empire, des rapports entre l'Église, le pape et l'empereur au XIVe siècle. Et Bertrand de Saint-Géniès mourra martyr de la foi. Et alors que lui, comme Armand de Narsès, sont des descendants de cathares. On a donc là, si vous voulez, toute l'histoire à travers le cas des deux familles de Narsès et des Pennes, toute une illustration de l'évolution de ces familles nobles, nobles et militaires du Quercy blanc, depuis leurs origines, quand elles apparaissent vers l'an 1000, qui sont aussi les origines du catharisme, jusqu'à l'extinction de celui-ci, puisque le catharisme disparaît dans les années 1330-1340, avec la mort à Villerouge-Terménez du dernier parfait cathare, Bélibaste, qui est mort en mars 1330 ou 1329. Bien, quelque chose de la sorte. Vous connaissez le fameux dicton, c'est une prophétie qui veut que, au bout de 700 ans, après la mort de Bélibaste, du dernier parfait cathare, le laurier refleurira. Al cap des sept centans, tournera Berdezza l'Ulaurel. L'Ulaurel, c'est pas le laurier d'Apollon à Delphes, c'est la connaissance ésotérique, la gnose, la connaissance gnostique, la connaissance supérieure, interdite, réservée à une élite d'initiés, qu'aurait été le noyau même profond et secret et inconnu de la foi cathare. Alors cette foi cathare, on va essayer maintenant un peu de voir ce qu'elle est, pour voir les choses d'un peu plus près. reprenons cet exposé. J'espère qu'il n'est pas trop universitaire. Il est certainement très confus. Je connais mes défauts. Cet exposé donc sur le catharisme en Quercy-Blanc et à Montcuq et au XIIIe siècle, il y a de cela 780 ans maintenant, bientôt. 800 ans si l'on veut. C'est toute l'histoire du Quercy-Blanc, toute l'histoire du pays de Montcuq, dans sa sociologie, son économie, l'histoire des idées, l'histoire des institutions, l'histoire du droit privé, encore plus que public, qui peut apparaître à travers l'étude du registre de Pierre Célian, de 1241. C'est une mine d'informations dont on ne se sortirait jamais. Alors, je suis très porté sur l'étude des idées métaphysiques, théologie, philosophie. C'est très conceptuel. Bon, de formation, j'aimerais mieux vous parler de l'histoire du droit, privé et public, mais ça risque d'être un peu austère. Alors, pour en revenir un peu à notre sujet, les deux personnages principaux, il y en a trois. Alors, Guilliamas, évidemment, il est cité, mais on n'a pas de déposition, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Il semblerait que si c'est une femme, comme ce que je pense, puisque j'oubliais de vous le dire, en principe, les parfaits cathares étaient astreints à une totale chasteté, qui leur interdisait même de se trouver assis à table entre sexes opposés. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un repas, les femmes mangeaient dans une pièce, aussi parfaite soit-elle, aussi évoluée, aussi achevée soit-elle en hérésie, enfin en doctrine cathare, elles mangeaient dans une pièce, les hommes dans une autre. Et ce qui me fait dire que Dominus Guilliamas a été une femme, c'est qu'elle avait une gouvernante cuisinière à son service. Donc je vois mal un parfait ayant une associée, enfin une gouvernante cuisinière. Si ce n'est que le titre que l'on donne à cette gouvernante cuisinière, celui de Pediseca, la suivante, équivaut à Socia, qui est aussi le nom que l'on donnait aux adjointes plutôt des parfaites cathares. Chaque cathare pérégrinait toujours par couple, deux hommes ou deux femmes. Et je vois mal, dans ce cas-là, un couple composé d'un homme et d'une femme. Donc c'était peut-être une femme. Alors on ne sait rien d'elle, on ne sait rien ou de lui, si ce n'est que c'était le chef principal du catharisme à Montcuq, qu'il avait certainement une maison à Montcuq, ou qu'elle avait une maison à Montcuq, puisque d'après sa gouvernante cuisinière, Guilliamas pouvait recevoir une bonne vingtaine de parfaits cathares, dont des hommes, chez lui ou elle, dont les deux barons de Caussade et les deux frères étaient eux-mêmes des parfaits cathares. Il recevait également Vigouroux de la Bacoune, qui avait, semble-t-il, une maison à Montcuq, originaire de Castelmoron-sur-Lot. Vigouroux de la Bacoune, qui sera le coadjuteur, si l'on peut dire, de l'évêque cathare d'Agen, et Vigouroux de la Bacoune mourra trois ans plus tard, en 1244, à Montségur. Il sera parmi les 200 parfaits cathares brûlés au pied du Putz de Montségur. Et Vigouroux de la Bacoune est souvent cité en Quercy-Blanc, dans le pays des Vallées, pour son action. Alors les deux personnages principaux, effectivement, c'est Guillaume Bernard de Nars et c'est Pierre de Penne, dont les dépositions sont très révélatrices. Je vais quand même essayer d'abord de vous citer d'autres personnages qui sont membres. Enfin, il faut savoir qu'ils ne sont pas les seuls. Alors j'ai classé mes personnages en quelques catégories. D'abord, les doctrinaires. Ensuite, on pourrait dire les militants à cheval, puis les militants à pied, et puis enfin les simples croyants. Alors je me suis aperçu qu'il y avait en quelque sorte, dans le pays de Montcuq, donc quelques doctrinaires, sont les seuls dont on ait les dépositions éclairantes pour ce qui est de la doctrine cathare. On a ensuite, en dessous des doctrinaires, on a tout un groupe de nobles à cheval, qui sont des militants armés du catharisme. On a en dessous des militants à pied non armés, qui sont de véritables besogneux de la cause et qui ne sont pas des nobles. Ce sont des gens qui assurent le service des parfaits cathares et des militants à cheval. Et on a ensuite les simples croyants, que l'on peut définir par différents critères. Alors les doctrinaires, eux, on peut les définir par le fait qu'ils sont ceux qui, tel Pierre de Penne, diffusent les doctrines. Il le dit lui-même, il a souvent prêché ses doctrines. L'inquisiteur lui fait employer le mot hérésie, mais ce n'est pas le mot qu'a employé Pierre de Penne. Pierre de Penne a dû dire « l'enseignanzo del bene, l'intendenzo del bene, l'enseignement du bien, la compréhension du bien ». Guillaume Bernard de Narses, lui, nous dit qu'il tient ses doctrines, ses idées de Guilliamas. Et ces doctrines, on peut les structurer en les simplifiant autour de quelques thèmes. Alors, Guillaume Bernard, c'est-à-dire Guillaume Bernard, ça veut dire Guillaume, fils de Bernard de Narses. Guillaume Bernard de Narses, qui se dit avoir été instruit par Guilliamas, nous dit ceci. Ils ne répondent qu'aux questions posées par l'inquisiteur. Donc, ce que l'inquisiteur ne demande pas nous échappe. et nous ne savons que ce sur quoi l'inquisiteur a voulu être éclairé par les réponses des prévenus. Alors, Guillaume Bernard de Narcès nous dit qu'il y a un Dieu bon, Deus bonus, qu'on peut traduire par le Dieu du bien. C'est une notion platonicienne, qui remonte donc au 5e siècle avant notre ère en Grèce. Le Dieu unique qui est le Dieu du bien. C'est le bien, en fait. C'est l'un et c'est le bien suprême. Et Guillaume Bernard de Narcès nous dit que ce Dieu bon n'a pas fait les choses visibles. Il ne dit pas « il n'a pas créé », il dit « faire », le latin « facere ».« Deus bonus non fecit visibilia ». Le Dieu bon n'a pas fait les choses visibles. Les choses visibles, qu'est-ce que c'est ? C'est les choses matérielles, évidemment. C'est le monde dans lequel nous sommes, c'est les corps humains. C'est l'eau, c'est la terre, c'est les arbres, c'est les animaux, c'est les pierres. Et il ne nous dit pas qu'il a fait les choses invisibles. Ça, l'inquisiteur ne lui a pas demandé. Qu'est-ce que seraient ces choses invisibles ? Il faut se replacer dans la cosmologie, c'est-à-dire la connaissance de l'univers, qu'ont les hommes du temps. On s'imagine que la Terre est plate, qu'elle est entourée par un océan dont on ne connaît pas les limites, qu'au-dessus, il y a l'air, et au-dessus de l'air, une voûte céleste qui est dure, infranchissable, et qui empêche la communication entre le monde terrestre et le monde supra-céleste. Et dans ce monde supra-céleste, au-delà de cette voûte infranchissable, c'est là que les cathares situent le monde des choses invisibles et le règne du Dieu bon, du Dieu du bien, le règne du bien suprême. Alors, c'est là, on est obligé de déborder, il faut se référer aux écritures cathares publiées par René Nelly, à la religion des cathares, l'ouvrage de Michel Roquebert, et au même ouvrage de la part de Jean Duvernois, et même aux dépositions devant Jacques Fournier au XIVe siècle. Et au traité cathare anonyme, ou au livre des deux principes de Jean de Lugio, ou bien au traité contre les cathares. Alors, qu'est-ce qu'il y a également au-delà de la voûte céleste, dans ce monde du bien ? C'est là que vivent, que se trouvent les esprits. Alors, qu'est-ce que c'est que les esprits ? Ce sont les anges. Et ces anges sont des esprits, de purs esprits. Pour le Coran, c'est des êtres de feu qui ont été créés. C'est l'interprétation habituelle, mais le verbe qu'on emploie, c'est le verbe qui correspond à « fait ». Ils ont été formés par le Dieu du bien, le Dieu bon. Et ce Dieu du bien, en quelque sorte, il n'est pas vraiment un créateur, il est un formateur, à partir donc d'une matière préexistante. Alors on ne sait pas trop, là, on ne peut pas en dire plus. Il y a une substance à partir de laquelle ce Dieu du bien, il forme les esprits. Ou alors, peut-on dire, d'après le credo de Nicée, où nous confessons que nous croyons en un seul Dieu qui a fait le ciel et la terre, et toutes les choses visibles et invisibles. Les cathares, en latin, reprennent les mots clés du credo de Nicée, mais ils leur donnent un autre sens, parce que lorsque les catholiques disent qu'ils croient en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a créé, qui a fait, le latin dit fait, qui a fait le ciel et la terre, et les choses visibles et invisibles, ça peut signifier qu'il les a fait à partir de quelque chose, d'une matière informe préexistante, d'une matière éternelle. C'était l'opinion de certains philosophes, comme Épicure, par exemple, ou Lucrèce. C'est ce que rejette la pensée théologique chrétienne actuelle, pour qui, évidemment, Dieu a créé à partir du rien, à partir du néant. C'est une création a nihilo, comme on dit, à partir du néant. Ce que l'on va retrouver dans les polémiques cathares, à propos du sens du mot nihil dans le credo. Rien n'a été fait sans lui, et à propos du Christ. Le nihil, le sens du mot nihil. Bon, tout ça, on entre là dans des domaines plus complexes. Et alors, pour les cathares du XIIIe siècle, le monde du bien au-delà de la voûte céleste, c'est le monde des anges, des esprits invisibles. Mais c'est aussi le monde des âmes. Alors là, on en vient à un problème clé, parce que ces âmes, pour les cathares, là, c'est vraiment pas dans les registres d'inquisition de mon cul que vous le trouverez. Ce sont des parcelles de lumière divine qui sont cachées par le ciel physique, qui sont incluses dans le Dieu du bien et qui émanent de celui-ci. Et alors là, on en vient à ce qu'est l'anthropologie, c'est-à-dire la science de l'homme chez les cathares, pour eux. Et ça, ils reprennent Platon. L'être humain est composé de trois éléments. Le corps physique, qui pour les cathares est destiné à disparaître dans ce qu'un hérétique de Belcaire, Guillien Frusenet, appellera la putaria della terra origine, c'est-à-dire la pourriture des compositions de la terre et des origines. Pour les cathares, le corps à la mort disparaît, il se décompose, il se désagrège, et les éléments qui le constituent se réagrègent pour former d'autres êtres vivants, ou animés ou inanimés. Dans le corps, vous avez un esprit qui est un ange, alors tombé du ciel et qui a été emprisonné dans le corps physique d'un être humain. Et vous avez les âmes, qui sont des lames, qui est une parcelle de lumière divine, elle aussi tombée dans le corps. Alors il y a, au fond, derrière cette idée, derrière cette description, cet exposé, il y a l'idée que les deux principes opposés s'attirent. Le monde du bien, qui est le monde des esprits immatériels et invisibles, est irrésistiblement attiré par le monde de la matière. Et le monde de la matière, c'est le monde, pour les cathares, qui est le monde du mal. Alors, là, ils ont plusieurs interprétations. C'est le monde du mal, parce que ça devient compliqué. C'est le monde de l'existence. Ce n'est plus le monde de l'être. Le monde de l'être, c'est le monde du bien. Dieu seul est investi de l'être. Il n'y a que Dieu qui soit. Dieu est l'être en soi et absolu. Et le monde de la matière, c'est le monde sans être. C'est le monde des éléments, c'est le monde des agrégats qui se désagrègent et se recomposent. On retrouve là une idée bouddhiste. Et pour nos cathares, en quelque sorte, c'est une façon d'interpréter les dépositions cathares. Mais on peut en trouver d'autres. Parce que Pierre de Peine, de Saint-Géniès, nous dit ceci, que le Dieu bon, enfin il dit Dieu, Deus, il ne dit pas s'il est bon ou mauvais, on ne sait rien, ne détruira pas, non destruet, quod fecit, il ne détruira pas ce qu'il a fait, c'est-à-dire, on ne sait pas trop quoi, est-ce qu'il a fait des choses visibles ou invisibles, on ne sait rien, enfin Dieu ne détruira pas ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait ne passera pas. Alors, à première vue, on ne peut pas savoir de ce que sous-entend Pierre de Peine. Il faut croire qu'il entend que le Dieu du bien ne détruira pas les choses invisibles, c'est-à-dire les anges et les âmes, qu'il a fait lui-même, et que celles-ci ne passeront pas. Mais les âmes qui sont dans le corps humain, je vous l'ai dit, sont des particules de lumière divine tombées dans le corps humain, où elles rejoignent les esprits qui sont des anges, alors aussi attirés irrésistiblement par la matière. Alors, l'idée des cathares, c'est que la matière procède d'un principe du mal qui en est, je dirais, le formateur, l'organisateur. Et alors les cathares, pour ça, font appel à des mythes que l'on connaît par la Kabbale juive et qui sont de très vieux mythes venus du Proche-Orient ancien et qui ont, en pays de Montcuq, une, je dirais presque une incarnation dans l'iconographie de certaines églises du pays de Montcuq, essentiellement Saint-Aignan de Rouzé, où les sculptures des chapiteaux et des colonnes d'angle du chœur sont en quelque sorte le conservatoire de très vieux mythes qui, me semble, ne pouvoir être interprété que selon cette interprétation qui est celle des hérétiques gnostiques, dualistes, médiévaux, connus sous le nom de cathares. On peut en trouver également un écho dans les fresques de Rouillac, notamment la fresque qui représente le péché originel. Pourquoi ? Parce que l'idée des cathares fondamentale, c'est que le dieu créateur de la matière est assimilé par eux au Satan de la Genèse, au serpent de la Genèse, au tentateur. Et les cathares font du Satan de la Genèse une incarnation, une manifestation visible du dieu créateur, Yahvé Elohim. Pour eux, le Yahvé Elohim de la Genèse, qui a créé le monde en 6 jours, s'est manifesté à Adam et Ève sous la forme du serpent, et le serpent du récit du péché originel, c'est pas autre chose que le Dieu créateur. C'est leur interprétation du récit de la Genèse. C'est une interprétation qui peut dériver de certaines interprétations kabbalistiques. Mon idée, c'est que le catharisme a été influé, s'est inspiré, et a subi l'influence de certaines interprétations kabbalistes dont il s'est ensuite détaché et qu'il a rejeté. C'est une interprétation possible, ce serait trop long à expliquer, il faut avoir vraiment les fresques de Rouillac sous les yeux et les sculptures de Saint-Aignan pour comprendre. Si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous ne comprendrez rien aux fresques de Rouillac. Et je dirais même, souvent, aux sculptures de Saint-Aignan de Rouzé. Alors, notre Guillaume Bernard de Narsès est complété donc dans sa déclaration par celle de Pierre de Peine, qui nous dit que Dieu ne détruira pas ce qu'il fit et que cela ne passera pas. Donc il a fait, selon Guillaume Bernard de Narsès et selon les écrits cathares, les anges, qui sont des esprits immortels, et les âmes divines, mais qui sont des émanations de Dieu. Donc elles sont dans la substance de Dieu dont elles sortent. Elles sont donc éternelles. Et pour les cathares, à la mort du corps, lorsque l'âme, parcelle de lumière divine, s'unit à l'esprit, qui est un ange, parce qu'au fond, l'âme, la parcelle de lumière divine, descend, tombe dans la matière pour retrouver l'ange, l'esprit angélique qui est enfermé dans un corps humain, pour s'unir avec cet esprit ange, le libérer de l'incarcération qu'il subit dans le monde de la matière et le ramener en Dieu, dans le monde des esprits, dans le monde de la lumière invisible au-delà de la voûte céleste. Et cette union de l'âme et de l'esprit produit la mort du corps. Le corps ne meurt que lorsque l'âme a retrouvé l'esprit à la recherche duquel elle avait été envoyée par Dieu, par le Dieu du bien. Et cette mort du corps se traduit nécessairement par une destruction du corps, qui n'a plus aucune utilité, si on peut dire. Corps qui est détruit, se décompose et se recompose en différents êtres vivants, animés ou non animés, conscients ou non conscients, animaux, végétaux, ou même autres humains, la croyance à la réincarnation successive, jusqu'à ce qu'enfin, l'esprit retrouve l'âme qui était venue pour le sauver et en quelque sorte accède à la lumière infinie et donc sorte du cycle infernal des réincarnations successives, le samsara de la pensée de l'Inde ancienne. Au fond, pour les cathares, c'est les actes commis dans cette vie qui peuvent influer sur le destin de l'esprit après la mort. Tout dépend évidemment du comportement du croyant pendant sa vie, donc de la connaissance qu'il a pu avoir des règles de comportement. Et pour les cathares, évidemment, c'est un enseignement, et c'est là qu'on retrouve certaines mentions d'opuscules cathares qui ont circulé à Montcuq. On le sait donc par les recherches qui ont été faites depuis. Cet enseignement, il est contenu essentiellement dans un texte du 2e siècle de notre ère, ou du 4e, on ne sait pas trop, qui est ce qu'on appelle l'Interrogatio Ioannis, l'interrogation de Jean, de Saint Jean, dans la présentation qui en est faite le soir de la scène, le soir du jeudi saint, après le départ de Judas. Saint Jean pose des questions au Christ, et le Christ lui révèle des secrets, des choses cachées depuis le commencement du monde, et ces secrets qu'il lui révèle, cette scène secrète, aurait constitué, selon les cathares médiévaux, l'essentiel de leur doctrine. Et c'est ce qui aurait circulé dans le pays de Montcuq sous la forme de petits opuscules, avec d'autres textes certainement. Je rêverai qu'un jour, dans le fond d'un grenier, on retrouve ces manuscrits du XIIIe siècle qu'on aurait soin, je l'espère, et qu'on aurait à cœur, je l'espère, de déposer de suite aux archives départementales, voire même aux archives nationales. Ce serait un trésor irremplaçable. Guillaume Bernard de Narcès continue son exposé en parlant de tout autre chose, et il fait une liaison assez curieuse entre deux éléments qui ne paraissent pas liés à premier abord. Il nous dit ceci. Le corps du Christ n'est pas le corps du Christ. Alors là, on ne comprend pas. Corpus Christi, non est corpus Christi, ça n'a pas de sens. On peut se demander qu'est-ce que c'est que le Christ de Guillaume Bernard de Narcès. Alors, s'il semblerait qu'il veuille dire par là, le Saint-Sacrement, si vous voulez, l'hostie consacrée, n'est pas le corps du Christ. Pourquoi ça? Alors, on entre à fond dans la doctrine de Cathare. C'est que voilà, pour eux, tout ce qui est de la matière relève du mal. Le Christ, qui est un ange envoyé sur la terre par Dieu pour sauver, pour enseigner aux hommes des vérités cachées et les amener au salut, le Christ n'est pas, à proprement parler, un être humain matériel. Jésus de Nazareth n'est qu'une apparence. Il est, si vous voulez, un ange. Il est un ange, d'après les doctrines contenues dans l'Interrogatio Ioannis et dans les différents écrits cathares. Le Christ, le Verbe divin, le Verbe, qui s'incarne en Jésus de Nazareth, est un ange créé par Dieu. On retrouve là l'arianisme. En partie, et prend une apparence humaine. On appelle ça le docétisme. C'est un lien avec l'arianisme et avec certaines écoles de pensée du Proche-Orient ancien. Et donc, Jésus de Nazareth n'étant qu'une apparence, ça se comprend qu'une apparence ne peut pas prendre une forme, une substance matérielle. En plus de ça, pour les cathares, le pain et le vin étant du domaine de la matière sont aussi du domaine du principe du mal, donc ils ne peuvent pas devenir des substances divines. D'autant que le Christ lui-même n'est pas divin pour eux, c'est un ange, un pur esprit créé par Dieu. Il n'y a pas de transubstantiation, donc pas de Saint-Sacrement. Du reste, Pierre de Peine le dira très bien, il rejette tous les sacrements de l'Église, y compris donc la communion, le baptême, la confession, le mariage, la confirmation, le sacerdoce et tout ce qu'on veut. Alors pour nos cathares, donc le Christ des évangiles n'est pas le fils du Dieu du bien, c'est un esprit immatériel, créé par le seul vrai Dieu qui est le Dieu du bien. Il n'y a pas donc d'incarnation de l'être de Dieu dans la matière, parce que tout simplement, Dieu, le Dieu du bien, n'a pas créé la matière et celle-ci lui est étrangère. Alors, c'est là le principe simple, si le Dieu du bien se mêlait à la matière, il s'annihilerait lui-même, il se réduirait lui-même à néant. D'où pas de question de transubstantiation, ni de beaucoup d'autres choses qui s'en suivent. Bon, Jésus n'est qu'une apparence, on appelle ça l'autocétisme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, Guillaume Bernard de Narcès établit bizarrement, à première vue, on ne comprend pas, un lien de cause à effet, une connexion logique entre la non-réalité matérielle du corps du Christ, Christ qu'une apparence, donc l'impossibilité qu'il y ait un sacrement, un saint sacrement, une incarnation, une transubstantiation, une non-réalité du corps du Christ, établit un lien de cause à effet entre cette non-matérialité et un tabou majeur, une interdiction, un péché majeur, qui serait celui pour tout homme marié légitimement à une femme, d'avoir avec celle-ci des relations sexuelles. Alors Guillaume Bernard de Narcisse nous dit, on le retrouve dans tous les registres d'Inquisition, mais particulièrement à Montcuq, littéralement. Alors il nous dit ceci, qu'il a cru que le corps du Christ n'était pas le corps du Christ, et quod et que nemo poterat cognoscere uxorem suam sine peccato, et que jamais personne ne pourrait connaître, c'est-à-dire posséder, pénétrer, acquérir, jouir du corps de sa femme sans péché. Alors c'est pas à proprement parler l'union sexuelle qui est un péché, c'est que l'union sexuelle est une cause de péché. Elle est cause de peccatum, c'est-à-dire qu'au fond, chez Guillaume Bernard de Narcisse, c'est pas vraiment un péché. C'est l'infraction d'un tabou, c'est l'infraction d'une interdiction. Il est interdit d'avoir des relations sexuelles entre hommes et femmes, même légitimement unis, alors selon les règles du mariage catholique, je pense. Je vois pas trop comment, mais c'est la grande époque de formation du droit canonique, 12e, 13e, 14e siècle. Pourquoi ça? C'est que voilà, en cas d'union sexuelle, il y a risque, chance, comme on veut, opportunité de procréation d'un enfant. Pour la médecine du temps, tout comme on s'imagine que la Terre est plate et que le Soleil tourne autour, on s'imagine que dans le sperme masculin, forcément, il y a des embryons tout formés. Et que lors de l'union sexuelle, lors du coït, le mâle transmet à la femelle des embryons tout formés qui se développent dans le giron de la femelle. Donc lorsqu'un homme et une femme s'unissent, le mari transmet à la femme des embryons que celle-ci va nourrir, qui vont se développer dans son corps. Or, pour nos cathares, cela induit nécessairement à la naissance la descente dans le corps de l'enfant qui vient de naître d'un esprit angélique qui tombe du monde du bien, qui est attiré irrésistiblement par le monde de la matière, il tombe dans ce corps, une âme, parcelle de lumière divine, qui vient rejoindre l'esprit pour le ramener en Dieu, et donc, si vous voulez, ça opère une espèce d'union, de descente des esprits du bien dans le monde de la matière qui est celui du mal. Alors, ce qui m'a frappé, cette interdiction, c'est que, évidemment, elle est en contradiction totale et absolue avec tous les principes de l'Ancien Testament, le croissez et multipliez, Dieu, l'institution divine du mariage selon le droit de l'Église. Et pourquoi cela? Parce que, tout simplement, pour les cathares, la matière, c'est le mal. Ça rejoint quelque chose qui, moi, m'a toujours frappé, et m'a toujours déterminé à penser qu'il y avait une influence judaïque. On revient toujours dans cette idée d'une influence de la Kabbale juive dont les cathares se seraient ensuite détachés jusqu'à la repousser. C'est qu'il faut savoir que dans la communauté juive, il est tout à fait légitime, il est même recommandé par les rabbins actuellement, dans la nuit du vendredi au samedi, là, le début du sabbat, puisque le sabbat commence le vendredi soir, il est recommandé aux époux juifs de s'unir. Et cette union sexuelle entre le mari et la femme, après le repas par lequel débute le Shabbat, opère ce qu'on appelle la descente de la Shekinah parmi les hommes. La Shekinah, c'est la présence immanente de Dieu parmi les hommes. La Shekinah, c'est celle qui est dans le souvenir, ou dont la présence se fait encore ressentir au mur occidental du temple de Jérusalem, au Kotel. La Shekinah, c'est un féminin, hein. C'est l'origine même de l'idée de Saint-Esprit. En hébreu, le Ruach, c'est l'esprit et c'est féminin. Comme en arabe, Ruach. Le vent, le souffle, c'est féminin. Et cette Shekinah descend parmi les hommes dans la nuit du Shabbat, lorsque les époux juifs légitimement unis s'unissent entre eux, pour assurer une descendance à Abraham. Accomplir la promesse faite par Dieu à Abraham, qu'il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Et chez les cathares, cette union sexuelle est un interdit, en tout temps. D'où l'abstinence générale des cathares, des parfaits, qui se contraignent à ne jamais avoir de rapport sexuel, à vivre dans la plus absolue chasteté, voire la virginité, et à ne jamais consommer quoi que ce soit qui puisse, comment dirais-je, accroître la libido. Alors tout ce qui est, tous les aliments dits chauds sont interdits. La viande, le vin, pas le vin, ils tolèrent le vin, mais la viande, surtout la viande d'animaux à sang chaud. D'où, second interdit, interdiction de tuer. On la retrouve même chez les vaudois, du reste. Interdiction de tuer qui consiste à quoi? C'est pas tuer n'importe qui, n'importe quoi, comment, n'importe quoi. C'est faire couler le sang de vivant, d'être vivant à sang chaud. C'est-à-dire qu'on peut tuer les poissons pour les manger, alors que les poissons passent dans la mythologie de l'époque pour être, surtout antique, des âmes en attente de réincarnation. On peut tuer des poissons, mais on peut pas tuer des poulets. On peut étrangler ou étouffer un homme, mais on ne peut pas provoquer l'écoulement de son sang. Ça, pour ça, il suffit de lire les registres d'Inquisition de Jacques Fournier en Pays de Foix, à Montaillou pour le savoir. Pourquoi ? Parce que, selon les mythes anciens et même selon la Bible, le sang, c'est le siège, c'est le lieu de l'âme. Or, l'âme est une parcelle de lumière infinie divine, selon la théorie cathare. Ça rejoint la théorie kabbaliste du zimzoum, de l'éclatement des vases, les kélipotes. C'est au fond, on retrouve là toujours l'influence kabbaliste. Et donc, tuer, également, ça consiste chez les mythes des chasseurs-cueilleurs. Il faut lire pour ça les œuvres de Frobenius, qui a été un grand ethnologue, anthropologue, qui s'est beaucoup consacré à l'Afrique. Tuer, en faisant couler du sang, c'est faire descendre des âmes dans la terre des origines, la terre où les corps se décomposent et se recomposent. C'est provoquer la réincarnation des âmes contenues dans le sang, dans la nature, dans la matière, dans les animaux, les choses, les hommes. Alors que l'incinération du corps produit la libération des âmes et des esprits qui rejoignent illico et ipso facto le ciel du Dieu du bien. On peut même dire que, pour nos cathares, tuer, c'est, selon certaines mythologies anciennes, reproduire l'acte de création de l'univers. Acte accompli par le formateur de l'univers Tam. Au fond, la doctrine cathare, on peut dire que tuer, c'est reproduire le sacrifice fondateur du monde. Donc, c'est réenclencher les cycles successifs du temps et du monde. L'autre interdit qui intervient, parce que lorsque vous tuez quelqu'un, vous obligez Dieu à, en quelque sorte, intervenir par l'émission de parcelles de lumière en vue de la réincarnation. L'autre interdit qui intervient, qui est du même ordre, c'est celui de prêter serment. Alors pourquoi ne faut-il pas prêter serment ? C'est toujours la même chose. Parce qu'au Moyen-Âge, prêter serment, c'est signer. Ça revient à prendre à témoin de la véracité, de la justice de son acte, de sa signature, le Dieu du bien, que l'on contraint à descendre dans la matière. On appelle ça de la théurgie. Ça consiste, si vous voulez, à effectuer des actes d'espèce de magie blanche qui vise à contraindre Dieu à agir. Donc c'est toujours pareil. Alors, avoir des relations sexuelles, tuer un animal à sang chaud, faire couler son sang, ou signer, ou prêter serment, donc signer, jurer un acte, ça consiste à obliger le Dieu du bien à descendre dans le monde de la matière, dans le monde du mal, qui lui est étranger, hostile et opposé, et dans lequel il s'anéantirait. Et il se trouve que ces théories sont celles de nobles et chevaliers de Montcuq, qui sont des fidèles des comtes de Toulouse, donc qui sont tenus de prêter serment au comte, d'assurer le service d'armes et de chevauchée armée, donc de tuer et de jurer fidélité. C'est ce que nous verrons avec l'étude un peu plus approfondie des familles en question. Bien, nous allons nous quitter. L'émission n'est pas terminée. Il y a encore au moins une troisième partie, le sujet étant d'une telle richesse que l'on pourrait en parler longtemps. Nous nous reverrons donc la semaine prochaine. Au revoir.
Les chevaliers cathares pleurent doucement au bord de l'autoroute quand le soir descend. Comme une dernière insulte, comme un dernier tourment. Au milieu du tumulte, en robe de ciment. La fumée des voitures, les cailloux des enfants. Les yeux sur les champs de torture et les poubelles devant. C'est quelqu'un du dessus de la Loire qui a dû dessiner les plans. Il a oublié sur la robe les taches de sang. On les a sculptés dans la pierre qui leur a cassé le corps. Visage dans la poussière de leur ancien trésor. Sur le grand panneau de lumière, raconter aussi leur mort. Les chevaliers cathares y pensent encore. Non. N'en déplaise à ceux qui décident du passé et du présent. Ils n'ont que 7 siècles d'histoire, ils sont toujours vivants. J'entends toujours le bruit des armes et je vois encore souvent des flammes qui lèchent des murs et des charniers géants. Les chevaliers cathares pleurent doucement au bord de l'autoroute quand le soir descend. Comme une dernière insulte, comme un dernier tourment. Au milieu du tumulte, en robe de ciment.